Melody, la radio vintage forever.
Il a grandi avec les grandes émissions de variété, les refrains populaires, les samedis soirs devant la télévision, les disques qu'on apprend par cœur et cette noble envie divertir les gens. Animateur, chanteur, comédien, Jérôme Anthony a toujours gardé ce lien avec la chanson française, celle de Delpech, de Dassin, de Claude François, de Béco, mais aussi avec l'univers flamboyant de Mariti et Gilbert Carpentier. Aujourd'hui, il revient avec de beaux projets, un nouvel album très personnel, à cœur ouvert, qu'il a entièrement écrit et composé, une grande tournée avec la comédie Coup de bluff au cabaret, et toujours cette passion intacte pour la variété, la scène, la télévision populaire et les chansons qui traversent les années. Jérôme Anthony, bonjour et merci d'être avec nous.
Eh ben bonjour Gilles et merci pour ce petit mot d'accueil très sympathique et assez complet.
Bah oui, assez complet, mais ouais. C'est votre carrière là. Vous êtes partout, au théâtre, à la télévision, en chanson. Vous avez le temps de poser vos valises quelque part, Jérôme ?
Eh ben je les pose partout. J'ai une manie quand j'arrive dans les hôtels où je vais, j'ouvre ma valise et là j'ai l'impression d'être chez moi tout d'un coup. C'est la première chose que je fais, c'est que j'ouvre ma valise. Oui, ben moi j'aime bien, mais je provoque tout ça. C'est-à-dire c'est un choix. Je pourrais m'en passer. Je pourrais rester tranquillement chez moi dans mon canapé et regarder des séries sur Netflix. Non, moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien partir à leur rencontre, j'aime bien faire des tournées, j'aime bien aller sur de nouveaux projets, préparer le coup d'après. Moi, quand j'étais gosse, je me suis dit plus tard, j'ai envie de m'amuser. Ouais. Et d'amuser les autres tant qu'à faire. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec ces émissions de variété qui divertissaient les gens de province le week-end. Je l'ai vécu moi ça, parce que moi je suis de Nancy et les divertissements, c'était la télé. Et je crois que bah déjà tout petit, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Je trouve que ces gens dans l'écran sont géniaux, flamboyants, talentueux. Je ne me range pas dans cette catégorie, mais je me disais, je vais essayer d'être un bon imposteur.
Ok. Et puis là, vous revenez. Voilà, il est là.
Je viens. Oui, je viens. Je reviens, en fait.
Bah oui, vous êtes déjà venu chez Mélodie.
Parce que j'ai fait beaucoup de reprises. Oui. Et notamment avec Yann Muller qui explose en ce moment. J'avais découvert son travail, Yann Muller, et on a fait deux titres ensemble qui ont plutôt bien marché. On a fait L'été indien et Pour un flirt. Et puis là, j'avais très envie de faire... Lui faisait son album de son côté.
Okay.
Et moi, j'avais très envie de faire depuis quelques temps mon album. J'osais pas. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, il y a des petites choses dans la vie qui font qu'à un moment, ça se déclenche. J'avais pas mal de chansons en stock. J'en ai encore plein.
Écrites et composées.
J'ai tout écrit et composé.
À cœur ouvert.
Et j'ai produit l'album.
Okay.
Personne ne m'a dit ce que j'avais à faire. Il y a sans doute des erreurs dedans. J'ai sans doute mal fait des choses. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a tout moi dedans.
Voilà. Mixage aussi.
Je suis très chiant sur les arrangements des chansons.
Ok.
Je suis très très chiant. Il y a une couleur que j'ai envie d'avoir, un petit peu années 80 comme ça, que j'aime bien. Je me suis fait l'album que j'aurais dû faire quand j'avais 20 piges. Quand, en fait, moi, j'aimais bien chanter. Je chantais Claude François, je chantais Michel Berger, et j'étais un très grand fan de Balavoine. Et quand je faisais de la radio, en 85-86 notamment, j'avais un coach vocal qui a fait que je n'ai pas mué violemment. Okay. En fait, j'ai jamais fait de mue, moi. J'ai dû finir ma mue à 30 ans. C'est-à-dire, j'ai pas eu le pour pouvoir continuer à faire la radio. Donc, j'allais trois fois par semaine chez un coach qui était aussi un prof de chant et qui s'est aperçu que j'avais une voix un peu, entre guillemets, je peux le dire avec le recul parce que je ne l'ai plus aujourd'hui, une voix un peu exceptionnelle qui montait jusqu'au contrut. C'est-à-dire vraiment une voix très, très aiguë. Et donc, ce prof de chant, quand Balavoine était de passage à Nancy, a contacté Balavoine et lui a fait écouter ma voix avec des chansons, etc. Et le lendemain, j'ai été convoqué par Balavoine à son hôtel, le lendemain du concert. Et donc là, en fait, ils avaient fait le rendez-vous. Et Balavoine me dit, écoute, moi j'adore ta voix, t'as une petite gueule rigolote, tu me rappelles machin, je vais te faire des chansons. Cool. Et donc j'allais à Paris toutes les semaines aux éditions Barclay, chez Léo Missir, qui était l'agent de Balavoine, et toutes les semaines... Il m'apprenait le piano, les couplets, les refrains. Parce que Balavoine, il me disait, je vais te faire des chansons, mais je veux que tu saches les faire aussi. Et donc, j'avais 16 ans à l'époque. Et j'allais toutes les semaines apprendre un petit peu à faire des mélodies. Et c'est ça qui a suscité cette vocation en moi d'écrire des chansons.
Ouais, c'est incroyable. Et cet album, vous dites, c'est l'album que j'aurais dû faire quand j'avais 20 piges.
20 ans.
Mais c'est l'album, vous en avez sorti deux, un de reprise et celui-là, le plus personnel. Vous êtes personnel là-dedans.
Ouais.
Vous vous y mettez beaucoup. Est-ce que vous l'avez construit comme un fil narratif? Est-ce que vous souhaitiez raconter quelque chose? Et on va y revenir, on va l'effleurer le sujet sentimental. Il y a un narratif là-dedans.
Oui, il y a eu un petit déclic sentimental qui a fait que j'avais envie de me livrer un petit peu. Enfin, je me sentais plus capable et puis peut-être le temps faisant, enfin je sais pas. Mais il y a eu un petit déclic qui a fait que j'avais envie de passer des petits messages. Voilà. Oui, il y a eu ça. Et puis... j'ai été quand même encouragé par des gens du métier qui m'ont dit « Écoute, fais-les, ces chansons, elles sont bien. » n'y a que toi qui peux amener ce sujet, ce projet à bien. C'est ce que j'ai fait, voilà. Je me suis décomplexé, en fait.
Mais complètement aussi dans les styles musicaux. Vous avez
non,
dit 80,
vraiment, non,
90.
Alors, les erreurs que j'ai faites avant, c'était que moi, j'étais encore dans le modèle de l'époque où je faisais de la radio et où on se disait, ah, ce son est sympa, cette chanson est sympa.
Parce qu'elle
on
va passer.
On va se faire plaisir, on va la passer. Donc, ouais. Je faisais des choses un petit peu aux couleurs des radios, aux couleurs de ce qu'on appelle des chansons un peu formatées. Même si c'était des reprises, je les formatais beaucoup. Ce qu'on a produit avec Yann Muller, c'était très format radio, quoi. Et en fait, les radios s'en foutent. Aujourd'hui, il ne se passe plus ça. Ils ont plus les gens de radio n'ont plus les réflexes que moi j'avais à l'époque. On ne se permet plus de craquer, d'avoir un coup de cœur pour un chanteur et se dire on va passer sa chanson. Ça n'existe plus. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais faire un album personnel. Mmh. Et puis je vais m'adresser aux gens qui me suivent, la petite communauté de gens qui m'aiment bien. Et puis voilà, puis on essaiera de grandir cette communauté. Et puis on va faire des concerts avec des reprises, quelques-unes des chansons de l'album, mais aussi beaucoup de reprises. Et puis voilà, je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus personnel et de plus engagé, enfin de plus engagé, de plus personnel en tout cas, et sans complexe.
Et pourquoi les chansons sentimentales? Tiens, parce que tout l'album parle de ça. Est-ce que c'est une grande tradition française? On va revenir
ouais,
sur
bah
Beko
oui, c'est
après.
Une grande tradition française, oui.
C'est une tradition.
Oui, les chansons d'amour, c'est une tradition française, italienne, latine, quoi. Enfin, même internationale. Enfin, je veux dire, c'est sujet. Tout ce que je dis dedans est très personnel. C'est vraiment un album vraiment autobiographique.
D'accord.
C'est très personnel, mais c'est à la fois totalement universel. Il m'est rien arrivé de dramatique. Il m'est arrivé tout ce qui arrive à tout le monde. Enfin, on a tous vécu des moments de joie, de peine. C'est ce que j'évoque, la famille, les amis, les amours, les emmerdes. Voilà, il y a un petit peu tout dans cet album.
Ben, bien sûr, et le premier extrait qu'on a pu découvrir, l'album est sorti le 6 mars, c'est ça ? 6 avril ?
Oui,
6 mars.
Oui.
Le premier extrait qu'on a pu découvrir, c'était « Ne pars pas trop loin », une chanson qui parle de...
Bah d'une histoire qui est en train de se finir, et puis on essaie de rapprocher les morceaux.
On
et
a
puis
tous
bon,
connu
finalement,
ça.
Finalement, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, la chanson est là.
Et elle est clippée, et là, je vous propose d'en écouter un petit extrait.
Allez.
Voilà, ne pars pas trop loin. On sent dès le départ que la rupture est proche. Il y a une souffrance dans cette chanson.
Et en plus, au départ, c'était une balade.
J'en D'accord.
ai fait un titre rapide, mais c'était une balade au départ. Et oui, bah voilà. Bon, enfin, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas rien de dramatique. Hein, c'est pas la guerre mondiale. Hein,
ouais.
Mais bah, ça permet de jeter des mots sur un papier. Ça permet d'essayer de trouver un angle de tir. Voilà. Bon. Voilà, c'était une période comme ça. Voilà, c'était cette période-là. J'ai deux chansons qui sont sorties à ce moment-là. Celle-ci et une autre qui est dans l'album qui s'appelle « Mais de moi, je ne sais » où j'évoque un peu aussi le métier, le fait que... les joies que peuvent amener le succès et puis la redescente aussi parfois. Et puis que tu n'as pas envie que les gens te lâchent autour de toi parce que tu dis « Bon, peut-être qu'ils sont là pour ça aussi, j'en sais rien, je ne sais pas. » Enfin, tout ça s'en mêle.
Okay.
Et tout ça amène à des mots, à des sentiments, à des sensations. C'est ce que j'ai voulu mettre dans cet album. Mais encore une fois, c'est pas des choses, c'est des choses totalement universelles que les gens vivent dans leur boulot. Même quand on est commercial, on ressent ce genre de choses. Et puis quand on est commercial, on se fait plaquer aussi par des nanas et inversement proportionnel. Voilà, il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais c'est vrai que quand on écoute ce genre de chansons, eh ben on se sent concerné. Mmh. Voilà, on peut s'identifier.
C'est une chanson qui a été clippée. Le deuxième clip, vous venez de me le dire, c'est S'aimer à perdre la tête, qui va bientôt sortir.
Voilà, là, on est sur un truc beaucoup plus traditionnel,
ouais.
Beaucoup plus festif.
Plus festif.
Plus festif.
Et il y a une chanson aussi, tiens, Tant de rêves à oublier, j'ai écouté sur l'album. Elle parle de vous, elle parle des gens du métier.
Elle parle de... Alors, au départ, elle parle d'un copain à moi qui voulait faire ce métier, qui s'est jamais donné vraiment les moyens, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que faire ce métier, c'est juste se mettre derrière un micro et chanter comme ça, avec être sentimental, etc. Non, ça ne suffit pas, il faut travailler, il faut enfoncer le clou, l'enlever, le remettre. Enfin, c'est vraiment du boulot. Non, alors je pense à lui, mais je me suis reconnu aussi un petit peu dans son parcours. Voilà, c'est tout. Et comme plein d'artistes qui essayent d'en faire leur métier, qui à un moment sont obligés de se résigner, de se dire que finalement, il va falloir partir vers autre chose. Parfois, il y a des rêves qu'il faut oublier parce que ça peut gâcher une vie.
Mmh. Des rêves et puis voilà, des chansons, vous l'avez dit, vous êtes... Déjà, vous l'aviez dit chez Mélodie, mais dans d'autres interviews, vous êtes très pudique. On voit que vous m'avez esquivé plusieurs fois la question, mais en tout cas, est-ce qu'une chanson permet de dire ce qu'on n'arrive pas à dire?
Ah oui, alors totalement. Ah oui, ça, alors, ah oui, oui mais est... ça c'est, voilà, c'est cette fameuse pudeur. Hein, parce que, vous savez que moi, dans le milieu, on m'appelle Gégé la pudeur.
Gégé la pudeur, ben, on, l'a bien, on le voit, d'accord.
Mais bah, du coup, avec cet album, je casse le mythe. Hein, mais, non, mais c'est vrai que dans une chanson, on arrive à faire passer des choses qu'on a du mal à dire. Et que, ben voilà, oui, oui, c'est ça. Mmh. Les chansons permettent de faire ça. Il y a des chansons qui revendiquent des idées. Moi, c'était, moi j'ai rien à revendiquer. J'ai juste j'avais des sentiments à faire passer. Et en me disant que les gens pouvaient s'identifier à ce genre de sentiments. Voilà,
c'est et tout. C'est ce qui est le plus beau, à cœur ouvert. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Oui, on le voit, à cœur ouvert de Jérôme Anthony. On va passer, on va revenir un peu dans le passé. On va parler de votre précédent album aussi,
avec
qui
plaisir.
Était plus swing.
Ah oui.
On le sait, vous êtes un amateur de chansons et de variétés. Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de reprendre ces chansons avec lesquelles vous avez grandi peut-être, du Delpech, du Berger, vous l'avez aidé. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces chansons-là?
Bah alors, ce qui me plaît dans, bon déjà, c'est une période de la variété que j'adore. C'est vraiment l'âge d'or de la variété. Tout était possible, tout était extraordinaire, tout était flamboyant. On entendait tout. La musique était une industrie qui marchait vraiment bien, même quand ça marchait pas. C'était quand même déjà pas mal. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même un disque qui ne marchait pas, il se vendait quand
à
100
000,
même.
Ouais.
Les gens les écoutaient. Enfin, je veux dire, il y avait une envie, il y avait un enthousiasme qui a quand même un petit peu disparu ou qui s'est transformé, j'en sais rien. En tout cas, en ce qui me concerne, il a un petit peu disparu. Bon.
Okay.
Et puis, moi, il y a des chansons. Parmi ces chansons de répertoire des années 70, 80, il y a des chansons que j'aurais aimé chanter, avec lesquelles je me sens bien. Ou qui évoque des choses qui me plaisent.
Chez Laurette.
Chez Laurette, par exemple. Non, mais j'adore la voix de Delpech, puis je me sens à l'aise dans ce genre de répertoire. Vocalement, je me sens à l'aise dans les chansons de Delpech. C'est vraiment cette manière de chanter que j'adore. Mais, et puis tout le répertoire de Delpech est super. Alors j'ai pris Chez Laurette. Parce que l'idée de cet album, c'était de reprendre des standards français et de les emmener dans un univers swing comme l'aurait pu le faire Sacha Distel. Donc là, j'avais tout. J'avais les chansons que tout le monde connaît et puis cette esthétique qui est claire et définitive, c'est-à-dire le big band, on est habillé, on est classe, on est en smoking, voilà, on y va, le Rat Pack à l'américaine, quoi, mais à la française. Bon, Danny Briand m'a dit « tu t'es fait plaisir », mais il me dit « tu vas voir que les gens vont pas comprendre ». Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de concerts. En concert, c'était super, mais c'est vrai que le swing en France, c'est pas notre culture.
Vous avez rendu des chansons qui étaient plutôt tristes, joyeuses. Vous l'avez dit dans une interview que souvent les covers, ça plombe.
Les mecs qui font « viens danser sous les sunlights ». Je peux pas. Je peux pas, je peux pas.
Et vous,
je peux
au contraire.
Pas. C'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, on parlait du DJ Yann Muller tout à l'heure. C'est ce que j'aimais chez lui, c'est que lui prend des chansons tristes, des ballades, et il en fait des chansons joyeuses. Et tout le monde les connaît. Là, il reprend par exemple « Est-ce que tu viens pour les vacances ?», qui est quand même une chanson un peu romantique, c'est une ballade. Bon, il en fait une chanson joyeuse pour l'été. Et moi, ça, j'aime bien. Ça, c'est un vrai travail. C'est comme au cinéma, hein. Faire pleurer,
c'est
toujours
plus facile.
Plus facile que de faire rire. Parce que tout le monde pleure pour la même chose, mais personne ne rit pour la même chose.
C'est vrai.
C'est toujours le même problème. Réunir les gens sur de l'humour, sur du festif, c'est vraiment pas facile.
Ouais, y en a deux en tête. C'était Carlos et Patrick Sébastien, à la limite, maintenant.
faire rire, non, mais même au cinéma ou à la télévision, c'est vraiment des choses qui divisent. Voilà, pour émouvoir, on connaît les clés.
Tiens, est-ce qu'il y a une chanson que vous auriez aimé écrire dans toute cette période?
Oh, il y en a énormément, mais évidemment, parce que là...
Votre Madeleine, votre chanson phare,
celle qui vous accompagne. Comme d'habitude. C'est la chanson qui m'a suivi, parce que quand j'étais gosse et que je faisais des concours de chant, c'est vraiment la chanson qui est la plus... c'est une chanson de concours, quoi.
Ouais.
C'est une chanson de concours, parce que vocalement, elle est très très large.
Et puis elle rapporte.
Elle parle à tout le monde, elle est à 9 ans, puis elle rapporte. Alors si je devais en choisir une, je choisirais celle-là, ouais.
Mince, je pensais que vous alliez me parler d'un grand monsieur. On va y venir.
De Gilbert Bécaud.
Eh ouais.
Ah ouais.
On va y venir. J'étais obligé de vous parler de Bécaud.
Ouais.
Oui, il vous a, je crois, fait un... Même pas, je crois, je suis sûr. Il vous a fait un beau cadeau. On y arrive. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Gilbert?
Gilbert Bécaud et Aznavour, c'était les deux chanteurs préférés de ma grand-mère. Donc, je connaissais toutes ses chansons parce qu'elle me les chantait, parce qu'elle les fredonnait, parce que c'était vraiment... De toute façon, c'est la grande classe. Hein, je veux dire, Aznavour et Bécaud, c'est la grande classe. Et en plus, ils ne sont pas dans la même catégorie musicale.
Ils ont bossé ensemble, mais ouais.
Oui, mais ils sont pas dans. Ils faisaient pas la même musique.
C'est
vrai. Quand je parle d'eux, on peut pas choisir entre les deux. Voilà, ils faisaient pas le même genre de musique. Bécaud, il était fou, fantasque. Il partait dans des rythmiques de chansons hallucinantes, presque anecdotiques parfois. Et puis les textes de Delanoë. Enfin voilà, tout ça, moi j'adore. Et oui, j'ai eu la chance qu'il soit mon En fait, j'ai participé à un concours de chant quand j'avais une vingtaine d'années dans l'émission Sacrée Soirée, et on me l'a collé comme parrain. C'est-à-dire,
quelle
comme
chance.
C'était lui l'invité, ils m'ont dit, moi, ce sera ton parrain. Ah, bah oui, super. Donc, juste avant l'émission, j'étais vraiment pétrifié en coulisses. Et je me souviens, il avait une petite nana qui se baladait avec un plateau avec des petits shots de whisky.
Évidemment.
Et il me dit, vas-y, prends un petit, tu vas voir, ça va te détendre. Alors, j'ai pas osé esquiver. J'ai pris le petit shot de whisky. Et là, je me vois là, sur cette vidéo arriver sur le plateau. Je suis tout rouge. J'ai vraiment la cocotte minute qui va exploser. Mais c'est vrai que j'étais complètement à côté de la plaque, mais finalement ça m'a permis de bien chanter. Bon, j'ai pas continué à faire comme ça, mais Beko,
une relation spéciale.
C'était le parrain de cette émission. Et puis bon, voilà, un jour il m'a convoqué à la SACEM avec Pierre Delanoë. Ils m'ont dit, bon voilà, on t'a fait une chanson hier soir. Je suis reparti avec ma cassette, et puis j'en avais jamais rien fait. Parce qu'après, je suis parti dans la télé, j'ai fait un disque avec Barbe Olivien. Enfin voilà, j'avais mis ça de côté, j'avais oublié. Et puis je l'ai remis dans l'album précédent, l'album de Swing, là, qui s'appelait Ma plus belle chanson. Et on en a fait une version un petit peu, sans doute, comme l'aurait aimé Beko, avec des envolées de violon la Beko, quoi.
On en écoute un extrait.
Ah bah, avec plaisir.
Je t'oublie. Je n'ai que ce moyen pour traverser la nuit d'hier jusqu'à demain. Je t'oublie.
C'est ainsi que je vis. Le chagrin que j'ai eu ne me tourmente plus. Je t'oublie. J'ai brûlé tes serments dans le feu de l'hiver. Et j'oublie.
Hey, c'est marrant d'entendre Beko sur son piano là juste avant.
Incroyable.
Incroyable. Et je me souviens parce qu'il fait couplet, refrain, pont, refrain. Et puis à la fin, il fait etc, etc, etc. La cassette, il fait etc, etc. Genre, démerde-toi avec ça.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous repartez avec une cassette de Gilbert Beko?
Non, mais je ne me rendais pas bien compte, en fait. Parce qu'au moment où je fais le concours dans Sacrée Soirée, tout le monde me propose des chansons. Tout
D'accord.
le monde. Je reçois des chansons de tous les côtés. Mais Beko, quand même, c'était assez énorme. Mais je n'étais pas fou de cette chanson. Je la trouvais pas FM, quoi. À l'époque, les radios FM, ça comptait encore. Elle manquait un petit peu de l'énergie nécessaire. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mes choix sont différents. Et puis, je pense plus FM. Et puis, donc, j'avais mis ça de côté en me disant, c'est quand même... C'était pas FM, en tout cas. Ça,
et pas tout le monde ne repartait avec une chanson de Beko. Hein.
Oui, ben, je l'ai gardée précieusement. Et puis, je l'ai fait des années plus tard. Voilà, c'est tout. Et j'avoue que quand on l'a sortie, la chanson, il l'avait même pas déposée à la SACEM. Elle n'a même pas été déposée, cette chanson.
D'accord.
Donc, j'avais appelé son fils, Gaïa, et je lui avais dit, écoute, j'ai cette chanson. Il me dit, mais je me souviens de cette mélodie. Je ne sais pas si c'était sincère ou pas. Hein. Mais on l'a déposée.
Ouais.
Du coup, on a déposé la chanson au
Pierre
moment
Delanoë.
Où on a sorti l'album.
D'accord.
Il me dit, mais t'es hyper honnête parce que t'aurais pu la signer, la chanson. Mais je lui dis, mais enfin, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit signée Beko. C'était ça
dire
qui m'intéressait.
Que bah ouais.
Donc, j'avais la preuve avec la cassette que c'était bien de lui, quoi.
Ah, ça, on l'entendait bien. Vous avez, vous l'avez évoqué, Gilbert Beko a une capacité sur scène énorme. Enfin, il cassait les fauteuils.
Ah ouais, là, on est sur des artistes exceptionnels qui n'existent plus. Hein.
Mais vous inspirez ? On va avancer, là, on arrive sur la scène progressivement. Vous inspirez de ce genre d'artiste, monsieur qui était Beko ?
Je peux même pas m'imaginer. Non, c'est même pas une source d'inspiration, parce que c'est pas imaginable. Ben non, parce que c'était un pianiste exceptionnel, un musicien formidable. Non, mais là, on est vraiment sur un niveau, qui est inimaginable. Non, si je pense à ça, je me casse la gueule, c'est sûr. Non, moi, il faut que je...
Ah ouais ?
Non, moi, je pense à des trucs... Je pense à une pop traditionnelle... Non, je ne peux pas m'imaginer ce genre de choses. Mais en revanche, c'est une source d'inspiration sur l'interprétation, sur la manière de voir la musique, d'entendre la musique, oui. Mais sur scène, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas.
C'est trop
haut niveau.
Pourtant, vous en voyez bien sur scène, on y arrive dans votre pièce de théâtre, coup de bluff au cabaret.
Ah oui, c'est
alors ça...
Non, mais par contre, en revanche, je peux m'identifier à un interprète de concert comme Aznavour.
Ah
c'est
oui,
pas
donc
pareil.
Là c'est plus sentimental, plus enveloppé.
Il jouait un peu la comédie, il était comme ça, il avait une manière, il mêlait la comédie à la chanson, il avait un truc. Là je peux parfois penser à ça. Mais Beko, c'était exceptionnel sur scène. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point.
Ouais.
C'est comme si tu me disais, est-ce que tu peux penser à Claude François en étant sur scène ? Non, bah non, je ne peux pas danser comme il le faisait. Je peux pas. Il y a un moment, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Bon, alors on parlait d'eux, pardon, je t'ai coupé.
On parle de ce que vous voulez. De coup de bluff au cabaret.
Coup de bluff au cabaret.
Bah oui, il faut en parler quand même.
La
suite de la tournée.
Là, le théâtre, c'est vraiment mon grand kiff.
Ok.
Je viens de découvrir ça, ça fait 3 ans. Je suis à ma 2e pièce. La première, on a dû faire 100 de dates. Tu sais, quand, c'est important de parler de ce nombre de dates parce qu'en fait, quand tu démarres une pièce, tu démarres à peu près pour 30 représentations.
Ouais.
Une trentaine. Mmh. Tu te dis, on va faire une trentaine de représentations.
Parisienne ?
Non, en
déjà
tournée.
En tournée.
Moi, j'ai envie de faire en tournée. Moi, je n'ai pas envie de faire à Paris. Donc, tu te dis, on part pour une trentaine de représentations, ce qui est déjà ce qui arrive régulièrement. Et puis après, tu as un producteur qui dit, ah, bah, attends, on est passé à 40. Attends, on vient de passer à 60. Attends, on passe à 80. Au fur et à mesure de la tournée. C'est-à-dire qu'en fait, après, les programmateurs se parlent et se disent, putain, elle est vachement bien cette pièce. Les gens étaient hyper contents. Donc, tu fais une représentation, puis tu en as deux qui la prennent derrière. Mmh. Et donc, à la fin, tu te retrouves avec une centaine de dates. C'est un petit peu ce qui se passe sur cette deuxième pièce qu'on a démarré en septembre avec Franck Leboeuf. Que Franck Leboeuf coproduit d'ailleurs. Nicolas Vitiello, le groupe Poids de Fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Poids de Fort au début des années 2000 qui avait gagné l'émission M6. Bref, donc on a démarré cette pièce. On devait être à une quarantaine de dates. Et là, on est à plus de 100 dates. Et on tourne comme des fous avec cette pièce. On s'amuse. C'est vraiment le théâtre, c'est vraiment l'éclate.
Puis le speech est marrant, non ? C'est deux gérants de cabaret qui veulent relancer l'entreprise.
Deux gérants de cabaret, d'un cabaret qui est en train de se casser la gueule. Et Franck Leboeuf joue le rôle d'un cambrioleur qui arrive dans leur cabaret pour se planquer et il a le butin avec lui et eux se disent bah avec ce butin on va peut-être pouvoir sauver le cabaret, voilà. Et puis rien ne se passe comme prévu parce que c'est le principe de ce genre de pièces de boulevard, quoi.
Il me semble que vous avez d'ailleurs souvent parlé du théâtre de boulevard et d'au théâtre ce soir.
Oui, au théâtre ce soir.
Est-ce que quand vous jouez, vous pensez à des acteurs, Michel Roux, Maria Pacom, Jean-Jacques, Jacqueline Maillan?
Michel Roux, c'est ma ref.
Ah ouais.
Michel Roux,
à laquelle
c'est ma
de Michel Roux, tiens.
Allez. Ah, j'ai plus le nom des pièces que j'ai pu voir.
Canard à l'orange, Le Vison Voyageur.
Mais je m'en souviens même plus. Mais franchement, je ne me souviens même plus des pièces que je voyais. Mais c'était toutes les semaines à la télé au théâtre ce soir.
Incroyable.
C'était toutes les semaines à la télé. Et Michel Roux. Alors il y en a deux vraiment. C'était Michel Roux dans son genre,
oui.
C'est-à-dire dans le genre classe, dans des beaux décors, etc. Cette manière de se tenir, cette manière d'envoyer sa réplique.
Et
Maillan.
Je pensais que vous allez dire Maillan.
Bah Maillan, non, mais moi je suis pas une nana, donc je peux pas.
Ah, vous identifiez,
oui.
Ouais, d'accord.
Et alors un mec que j'avais jamais trop percuté, mais du coup. Pour moi, maintenant, ça me parle, c'est Jean Lefebvre.
Bien sûr.
Jean Lefebvre, qui était toujours face au public.
Très cabot.
Et qui faisait même un petit clin d'œil de temps en temps.
Mais...
Ce qu'on me reproche de faire parfois, parce que parfois je le fais. Et j'adore ça. Cette petite complicité. Et puis évidemment, là, cette pièce, c'est un petit hommage qu'on rend aussi à La Cage aux Folles.
Mm-hmm.
Parce que cette pièce, La Coup de Bluff au Cabaret, il y a un petit peu de ça. Je me suis vraiment inspiré, moi, en ce qui me concerne, de Jean Poiret.
Bien sûr, magnifique.
Et on est vraiment dans un truc qui rend hommage à tout ce théâtre-là et notamment à cette pièce.
Ouais. Et après, est-ce que ça vous plairait, tiens, je pense comme ça, d'interpréter des grands rôles comme
des
ça.
Des classiques.
Ouais.
Des classiques
du boulevard. Mais
bien,
c'est
sûr,
des classiques.
Bien sûr. Ouais, j'aimerais. Oui, mais pour l'instant, je suis sur ce genre de pièces. Ce sont des créations. J'ai un producteur que j'adore. Déjà, je l'adore. Et puis, surtout, pendant des années, on m'a proposé du théâtre et j'osais pas y aller. Et lui m'a dit un jour, écoute, Jérôme, tu nous emmerdes avec ta mémoire que tu ne penses ne pas avoir. Alors, la mémoire, tu sais quoi ? Nous, on s'en occupe. Mmh. Je dis, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Parce que moi, je suis pas bosseur. Je sais pas m'asseoir, apprendre un texte. Je sais pas faire ça, moi. Et il avait raison parce que en fait c'est la mise en scène qui t'amène le texte au fur et à mesure.
Ils l'ont cousu sur mesure.
Non, c'est pas ça. Non, je veux dire par là que le texte vient avec la mise en scène, avec les déplacements, la mise en scène vient. C'est comme une danse, c'est comme une chorégraphie. Voilà. C'est pas si dingue que ça. Et puis on n'est pas sur des grands classiques. Hein. On n'est pas à la virgule près.
Okay.
On n'est pas sur des grands classiques, donc ça va, quoi. On se fait pas fusiller à la fin de la pièce, quoi.
Et vous avez dit, je crois que le théâtre vous a décoincé.
Oui, le théâtre m'a décoincé. Oui, parce qu'à un moment, je combinais la télé et la radio, et je me disais, tiens, je reprendrais bien, parce que quand j'étais gamin, j'avais fait un peu le conservatoire d'art dramatique de Nancy, mais pas très longtemps, j'ai dû le faire une saison. Et je me dis, tiens, je referais bien un peu de théâtre ou de comédie pour me décoincer un peu, parce que la télé... En fait, à force de me dire à une époque qu'il fallait avoir une stature de prime, c'est-à-dire une manière de se tenir,
mmh.
Et ben je me suis raidi. Et quand je me présente sur scène, j'ai une manière de me tenir qui est un peu raide, comme à la télé. D'ailleurs, quand tu regardes, c'est Delarue qui disait toujours un animateur qui fait carrière est un animateur qui ne bouge pas. C'est vrai que si tu observes bien, les animateurs qui ne bougent pas sont ceux qui font la plus longue carrière, okay. Finalement. T'es assez raide. Tu vois, t'es assez raide, mais tu t'en rends pas compte, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc ça m'a raidi et je me suis dit, tiens, je referais bien de la comédie pour me détendre un peu tout ça. C'est vrai qu'alors là, quand je suis sur scène, là, je peux dire que je suis très, très détendu. Je suis presque souple. Je suis presque athlétique.
Vous régalez. C'est votre place sur scène.
Oui, je pense que le théâtre, je m'y plais bien. Je pense que ça plaît bien. Et puis, je suis tombé sur deux pièces qui ont très, très bien marché. Ça donne un peu confiance.
Il y a une autre passion qu'on va évoquer. Elle est devant moi. Ça date d'il y a quelques années, mais je pouvais.
Ouais. Voilà. Ah bah oui, l'âge d'or des variétés, les émissions des Carpentiers.
Ça, c'est le livre que vous avez signé avec Philippe Tullier.
Oui, Philippe Tullier qui produit beaucoup d'émissions, qui est fan des Carpentiers, qui produit beaucoup d'émissions sur la musique et sur toute cette période de la télé que j'adore.
Alors, c'est
marrant parce que je suis allé voir une éditrice. Ouais. Ah ouais, là, il y a des superbes photos et puis on raconte les coulisses de ces émissions des Carpentiers avec lesquelles j'ai grandi. Mais c'est marrant parce que je suis allé voir une éditrice. On s'était rencontrés sur un festival et elle me dit si t'as un sujet qui te tient à cœur, j'aimerais bien qu'on collabore. Et je suis allé la voir en lui disant je ferais bien un truc sur les Carpentiers, il n'y en a pas. Elle me dit mais écoute, j'ai quelqu'un qui est venu la semaine dernière pour me proposer la même chose, c'était Philippe Tullier.
Ouais.
Et donc, du coup, on a travaillé ensemble et c'est un producteur que j'adore. C'est vraiment un producteur très classe, très smart. Un producteur vraiment très très chouette avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer sur ce livre. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce livre, mais tu sais, moi j'aime bien toucher un petit peu à tout. Hein. Écrire un bouquin alors que j'en lis quasiment jamais. C'était un peu un défi pour moi. Mmh. Et là, pour le coup, lui avait beaucoup de documents à me fournir. Mais vraiment, j'ai écrit le bouquin. Quoi. C'est-à-dire toutes les légendes, toutes les histoires, je suis allé les chercher. J'ai vraiment écrit le bouquin et lui me fournissait les
Et il a très bien marché,
archives.
D'ailleurs,
très,
ce livre.
Très bien marché.
Vous savez qu'il se vend même à prix d'or sur Internet. Je vous invite, chers auditeurs, à vérifier. Ah oui.
Il a été très, très bien réalisé. C'est vraiment un très beau livre.
Très beau livre. Et voilà, on va parler des Carpentiers. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette époque-là?
Je t'en parlais en début d'entretien tout à l'heure. Voilà, le truc, c'est que les Carpentiers, c'était le divertissement des gens de province le week-end. C'était tout d'un coup, on voyait le spectacle à la Parisienne. On voyait un spectacle comme ça, Mariti s'inspirait des shows américains. Mais je veux dire, c'était vraiment la télé, la grande télé française, avec cette bande d'artistes qui se retrouvaient. C'était toujours les mêmes. Hein. T'avais Sardou, Clo-Clo, Macias,
Johnny.
T'avais toujours les mêmes. Et à chaque fois qu'ils faisaient, leur top, c'est-à-dire, tu avais un top Sardou, mais tu retrouvais à chaque fois les mêmes autour, la même famille de cœur, à peu de choses près. Hein. Donc, c'était un rendez-vous avec ces artistes qu'on avait quasiment toutes les semaines. Donc, les artistes de l'époque, c'est-à-dire la variété française de l'époque et la télévision étaient très, très proches. Bon, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'émissions de variété parce qu'elles ne marchent plus aussi bien qu'avant, mais vraiment, ce rendez-vous avec ces artistes, on l'avait. C'est pour ça que ces chansons sont plantées très, très fort dans nos cœurs. Parce qu'elles font partie de notre vie de la télévision, elles font partie de la culture de la télé, de la culture de la radio et de notre culture tout court. Et puis, on entendait ça au Stop ou Encore le matin à la radio sur RTL. Quand j'ai eu l'occasion de faire Stop ou Encore, j'étais comme un fou. J'étais au milieu des jingles. Enfin, c'était incroyable pour moi. J'écoutais ça le matin et ça fait partie de cette époque, voilà, de l'âge d'or de la variété.
Et pourquoi aujourd'hui, vous parliez qu'on n'en fait plus de...
Bah parce que la variété, où elle me touche moins, où elle se partage plus de la même manière.
C'est pour ça qu'il y a plus d'émissions.
Quand on était gamin, moi je me souviens quand même qu'on écoutait à peu près les mêmes chansons avec mes parents, je crois, à peu de choses près. Mon père aimait bien Eddie Mitchell, du coup j'aimais bien quand même. Enfin, je veux dire, les disques tournaient, alors arrête avec Eddie Mitchell, et puis moi je me passais un Clo-Clo. Enfin, je veux dire, mais à peu de choses près, c'était la même chose.
Ouais.
Aujourd'hui, on la partage plus, la chanson, chacun l'écoute dans ses écouteurs. Même la télé, même les écrans, les gens. Avant, on disait que la télévision, c'était la mort de la conversation, mais c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand on se retrouve avec ses enfants devant un programme, on se dit merde, on a passé une bonne soirée entre nous.
Ouais.
On peut en parler, on passe un bon moment, on rigole ou on est ému. Aujourd'hui, chacun regarde son programme sur ses écrans, chacun écoute sa musique dans ses écouteurs. C'est devenu quelque chose qui divise. C'est un petit peu dommage, mais. Je veux dire, les gens qui consomment la télé ou la radio ou la. ou la musique comme ça sont très contents de la consommer comme ça. Hein. C'est pas un reproche. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant, c'était quelque chose qu'on partageait. Voilà. Il y avait quelque chose de chaleureux, il y avait quelque chose de réconfortant. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu la Madeleine de Proust. Quoi.
Et qui faisait rêver. On a des belles photos aussi dans ce livre, quand on voit la piscine de Sardou, le décor
voilà,
qui
oui.
s'effondre.
Mais le problème, c'est quand tu regardes les émissions aujourd'hui, tu te rends compte qu'elles ont pris un sacré coup de vieux. Quoi. Tu pourrais plus ouais. les faire comme ça. Hein. Les lumières, les réals, les plans sont très longs. On peut plus faire des émissions comme ça aujourd'hui. Mais ben voilà, on peut pas se dire que c'était mieux avant. On peut se dire que ça nous rappelle de bons souvenirs.
Et ça vous touche.
Et que tout ce qui se passe aujourd'hui est super aussi. Mais moi, j'aime bien faire de la télé en me rappelant aussi de ce qui s'est passé avant. Parce que cette culture-là, elle est dans la tête de tous les gens de ma génération.
On connaît votre personnalité, on sait voilà, que vous aimiez ben, les chansons, les Carpentiers, on vient de l'évoquer. Mais il y a aussi un passage qu'on connaît moins de vous, on vous connaît dans la bonne humeur, dans le divertissement, dans le sourire. Mais est-ce qu'il y a une part de vous qui est peut-être moins folle, moins joyeuse, moins
oui.
entraînante?
Bah, bien sûr, parce que moi je suis un... Je veux dire, non, mais je le dis toujours en déconnant, mais je suis un dépressif chronique, moi. Mais oui, je suis un dépressif chronique. C'est-à-dire, moi, j'ai des descentes et des montées qui sont assez hallucinantes. Alors, voilà, il faut lutter avec ça. Ouais. De moins en moins. Je le suis de moins en moins, mais je le suis quand même. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des chansons. C'est ce qui
et
fait
voilà.
qu'on arrive à rire. Non, mais c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à rire de. Les trucs qui font rire sont toujours des trucs dramatiques. Hein. Donc, voilà, on en rigole parce qu'on en fait du second degré. Mais,
Vous avez eu l'appréhension dans À cœur ouvert Vous avez eu de l'appréhension dans À cœur ouvert?
C'est-à-dire
de
me livrer.
Ouais, de montrer une autre face.
Plus vis-à-vis de mes proches, en fait, que vis-à-vis des gens.
Qui connaissent, eux,
ouais,
les coulisses.
Ouais, bon,
coulisses.
Je trouvais que ça faisait, voilà.
Ok.
On essaie toujours de jouer un peu les bonhommes, hein. On veut pas faire les trop sensibles, quoi. Mais bon, bah, y a un moment, voilà, on s'en fout. Il y a un moment, on lâche.
Ouais.
C'est ce qui m'est arrivé. Mais oui, c'est plus vis-à-vis de mes proches que j'étais un petit peu gêné, un peu pudique.
Vous le voilà, album À cœur ouvert, hein, dans un format plus intime. Est-ce qu'il y a un autre petit projet, tiens?
Non, mais ce que je voulais dire par rapport à cet album, c'est que je l'ai vraiment fait comme les albums que j'écoutais quand j'étais gamin. C'est-à-dire, c'est pas une histoire qui se suit, mais il y a quand même une constante.
Et oui.
Il y a quand même une constante. Il y a juste une chanson qui sort un peu du lot, qui s'appelle Le bistrot du coin. Parce que moi, le bistrot, j'adore ça. J'adore les bistrots, j'adore prendre un café le matin en terrasse. Je peux rester du matin jusqu'au soir à enchaîner des rendez-vous dans le même bistrot ou à Nancy ou à Paris et à refaire le monde. Et c'est juste la seule chanson qui est un petit peu jazz manouche, qui sort un petit peu du lot. Mais cet album, il est un petit peu comme les albums que j'écoutais quand j'étais gamin de bout en bout. Et on a quand même comme ça une constante, quelque chose
sentimental.
Ouais, de quelque chose de réconfortant qui nous embarque d'un sentiment à l'autre. Voilà, je l'ai construit vraiment comme ça et l'enchaînement des chansons est cohérent.
Tiens, on va terminer cette émission avec trois petites questions. Si justement les Carpentiers vous invitaient pour défendre cet album, voilà, on refait une émission, un top à Jérôme Anthony, ou numéro 1 Jérôme Anthony, qui vous inviteriez sur votre plateau, vivant ou décédé?
Comment?
Vivant ou décédé?
Ah oui, oui. Ah non, décédé, j'inviterai tous ceux de l'époque. Tu
ah ben,
bah,
je sais pas, Beko, Dassin.
Ah bah oui, non mais je
et
sais
vivant,
pas si bien.
Oui, vivant ou
non,
décédé?
Non, bah, vivant, moi, j'aimerais bien avoir autour de moi, il y a beaucoup d'artistes que j'adore. Hein. J'aime bien Claudio Capéo, j'aime bien Amir, j'aime bien Louane, j'aime bien Bruel. J'aime bien, voilà, tous ces artistes d'aujourd'hui, et puis des plus anciens, Pagny, voilà, tous ces gens que j'adore. J'adore Obispo, par exemple.
Et pas que des chanteurs, je pense. Franck Leboeuf qui fait votre
pièce.
Ah
bah, Franck Leboeuf, j'adore. Ah bah non, mais j'adorerais. J'inviterais Cyril Lignac, j'inviterais
voilà.
des gens que j'aime bien, qui me sont chers. Voilà, il y a plein de gens de ce métier que j'aime bien. Moi, je fais ce métier depuis que j'ai 14 ans.
Mm-hmm.
Et je faisais le constat l'autre jour, quand même, de me dire que je n'ai jamais eu d'embrouille avec qui que ce soit dans ce métier, alors que tout le monde s'embrouille. Mais j'ai jamais fait ça pour l'argent, et d'autant plus que je n'ai jamais cherché à être producteur. Souvent, c'est les animateurs-producteurs qui s'embrouillent un petit peu parce qu'il y a sans doute des.
Et qui gagnent le plus.
Voilà. Non, mais c'est très bien. Je critique pas. C'est-à-dire que moi, dans ce métier-là, je suis fils de commerçant.
À Nancy.
J'ai ouvert une boutique de fringues. Je sais ce que c'est qu'être chef d'entreprise. Ça m'a gonflé. Et donc, j'ai voulu toujours rester un enfant dans ce métier. Donc, être animateur, ça me va très bien. Je produis mes albums, j'ai ma société pour faire des animations, pour faire tout un tas de choses. Mais j'ai jamais voulu produire de la télé. Voilà. Et je ne me suis jamais embrouillé avec personne. Je crois que je n'ai jamais eu d'embrouille avec quiconque. Même si je réfléchis, je ne vois pas. Et je ne peux pas dire qu'il y ait quelqu'un que je n'aime pas. Voilà. Et quelqu'un, il y a des animateurs parfois qui jouent les gentils et qui sont pas toujours très gentils, par exemple. Ça m'énerve un petit peu. Mais je me suis jamais embrouillé avec personne. Et c'est un, franchement, c'est un record dans ce, dans, sur 30 ans de vie. C'est un record, franchement, parce que...
Comme Drucker. Comme,
mais oui, non, mais... Bah, Drucker, il s'est peut-être déjà embrouillé avec des gens, j'en sais rien, mais j'ai pas fait la carrière de Drucker, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que de ne pas s'embrouiller dans ce métier, c'est vraiment un record parce que, voilà, bah, moi après, je suis inoffensif, hein, moi. Hein, je viens pas bouffer dans la gamelle des autres, je me suis jamais mal comporté.
Donc il y aurait beaucoup de monde dans ce numéro 1.
Oui, il y aurait beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, il y a beaucoup de gens que j'admire. Je suis très copain avec François-Xavier Demaison, avec Mathieu Madénian, Mathilde Seigné, c'est toute ma bande de copains de vacances. J'adorerais les avoir autour de moi, si tant est qu'ils acceptent de venir. Mais voilà, il y a plein de gens que j'admire et que j'aimerais bien avoir autour de moi. Ouais.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Vous êtes un animateur-chanteur, un chanteur-comédien, un animateur-comédien ?
Je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout et je fais rien à un niveau olympique.
Mais vous êtes simplement la personne qui aime divertir les gens.
Oui, je crois que c'est ça.
Un artiste.
Oui, oui, ce serait très prétentieux, mais c'est vrai. En fait, je pense que je suis un petit peu artiste. J'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de réfléchir à des idées, j'ai besoin d'aller rencontrer les gens, je me sens bien quand on finit une pièce de théâtre et qu'on est applaudi ou un concert. Je me sens assez bien dans ces moments-là. J'aime bien quand les gens nous remercient. J'aime bien que, voilà, j'aime assez bien. En fait, j'aime bien le public. Voilà, ouais. Parce que j'ai toujours l'impression de moi-même d'être le public.
Et vous ressentez l'amour du public, alors, dans vos émissions sur M6 ou au théâtre, ou quand on vous envoie
vraiment,
des messages pour votre
l'émission,
album.
L'émission qui m'a vraiment rapproché du public, pour en avoir fait plusieurs sur le groupe M6, c'est vraiment Tous en cuisine avec Lignac.
Parce que pendant le confinement.
Cette émission a démarré pendant le confinement, ça a créé un lien avec le public qui est dingue, dingue. Et pour lui et pour moi. Hein. Même lui, les enfants l'adorent, parce qu'on faisait les cons pendant le confinement, on se déguisait, enfin moi je me déguisais. Quand on avait démarré cette émission, Cyril me dit « Attends, comment on va faire ? Moi, j'ai jamais fait de direct. » Cyril me disait depuis des années « J'aimerais bien qu'on fasse des émissions ensemble parce qu'on était très copains. » Et je le faisais rire et on passait de bons moments. Mais je lui disais « Mais on peut pas faire des émissions ensemble. Moi, je sais pas cuisiner. » Enfin, je dis « Oublie ça. Enfin, Cyril, on est copains, c'est bien. On boit des coups, on mange, c'est sympa. » Voilà. Et puis en fait, quand est arrivée cette émission, il a tout de suite dit « Mais je voudrais que Jérôme soit avec moi parce que moi, j'ai jamais fait de direct. »
Et voilà.
Et c'est comme ça qu'en 2-3 jours, on s'est retrouvé pendant le confinement à faire cette émission sur M6. Et il me dit, mais comment on va faire ? Et ben je lui dis, tu sais quoi, c'est simple. Hein. Je lui dis, on va faire le clown blanc et l'Auguste. Moi, je vais faire l'Auguste. Je vais faire rire les enfants. Et toi, tu vas faire le clown blanc. Tu feras kiffer les mamans. Et c'est comme ça qu'on s'est partagé le job.
Et c'est là où vous sentiez.
Et là on a un lien avec le public parce que cette émission existe toujours. Ouais. Et moi, je pars de ville en ville, de province en province avec cette émission. Et on a un lien avec cette émission, avec le public qui est très particulier. Et j'aimerais bien que ça dure encore très longtemps.
Et je vous le souhaite. Mmh. Je vous le souhaite, Jérôme. On va poser peut-être la dernière question. Vous l'avez évoqué, la chanson qui vous. Parce qu'on est sur Mélodie Radio, il faut le rappeler. Mmh. La chanson, allez, vintage qui vous accompagne, c'est quoi ? C'est comme d'habitude ? Vous restez là-dessus ?
Bah, comme d'habitude. À chaque fois que j'entends une chanson. Je me dis, ah, c'est celle-là ma préférée. Non, j'ai beaucoup de chansons que j'adore. J'ai beaucoup de chansons que j'adore. Mais c'est difficile pour moi d'en choisir une.
Voilà. Ouais.
Mais beaucoup de chansons. Et puis, en plus, moi, j'ai tendance à me replonger. Ça, c'est super avec les plateformes. Hein. Je me replonge dans des répertoires complets. Hein. Je me suis réécouté du Sardou. Je me suis réécouté du Delpech. Bon, ça, je le fais régulièrement. Voilà, je réécoute des répertoires complets, mais de l'album. C'est-à-dire dans l'ordre de l'album. Pas des best-of.
Et oui, parce que ça, c'est l'avantage du vinyle, où maintenant, sur les playlists, on écoutait chanson après chanson.
Je réécoutais, par exemple, il n'y a pas longtemps, Daniel Guichard. Et je me disais, putain, il a été bien servi, il a eu des très très belles chansons.
À laquelle, tiens, de Guichard ? Allez, on va peut-être... qu'est-ce qui vous plaît de Guichard ?
De Guichard, j'adore une chanson qui s'appelle... Attends, je l'ai. Je n'ai d'autre à raconter.
Je viens pas te parler d'amour.
Je viens pas te parler d'amour. C'est pas mon truc à moi. Les grands mots et les beaux discours, tu sais. J'ai jamais su faire ça. Voilà, c'est ce genre de chanson que j'aurais aimé écrire, ça, tu vois.
Magnifique. Bah écoutez, merci Jérôme Anthony. Je vais rappeler la promo. Voilà, il est là. À cœur ouvert. Qu'on a écouté avec grand plaisir avec vous. La tournée Coup de bluff au cabaret.
La tournée Coup de bluff au cabaret.
2027 aussi.
Le retour de Tous en cuisine sur M6. Et puis surtout les concerts. Les concerts, on commence à en faire cet été, mais on met vraiment le coup d'accélérateur à partir de janvier, à partir de septembre même.
D'accord.
Ça va s'appeler Moi, Clo-Clo, Delpech, Dassin et les autres. Et là, je fais des reprises de tous ces artistes-là. Je mets quelques-unes des chansons de mon album parce qu'il y a moi dedans, dans cette liste. Il y a moi. Et donc, j'en mets une ou deux comme ça. Mais je fais beaucoup de reprises sous forme de medley. On a produit des medley hyper festifs. Ça va être très, très sympathique. J'ai vraiment hâte qu'on démarre ces concerts.
On vous mettra le lien, en tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast, dans la description. Écoutez, Jérôme, merci d'être venu chez Mélodie.
Gilles, merci. C'était très agréable.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Mélodie. La radio vintage forever.